animaux, son frère. Maintenant et à jamais, les animaux sont tous égaux. L'heure a sonné de la
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Les animaux font-ils partie de notre histoire? C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Éric Baratet. Aujourd'hui, cinquième et dernier épisode, le 19e et le 20e siècle, la lente reconnaissance de l'animal.
L'acteur Michel Simon a travaillé dans sa jeunesse dans un abattoir. Il raconte son calvaire.
C'était l'enfer. Mais exactement, je n'imagine pas l'enfer autrement. Un abattoir où on doit tuer des cochons qui s'agenouillent, qui demandent pardon, qui veulent vivre, qui rendent les gorges. On marche dans le sang, dans les tripes.
Au 19e et au début du 20e siècle, les animaux, on l'a vu, sont de plus en plus massivement utilisés pour accompagner l'essor économique et pour faire la guerre. C'est aussi l'époque où, avec la poussée démographique, l'élevage s'intensifie pour répondre à la consommation croissante de viande et de produits laitiers et où l'on cherche à rationaliser l'abattage des animaux. Jusqu'alors, les bêtes étaient abattues dans des lieux dispersés, parfois au cœur des villes, au vu et au su de tout le monde. La vue du sang et les cris des animaux suscitant de plus en plus le dégoût et la gêne des riverains, les autorités décident de centraliser l'abattage dans de nouvelles structures à la périphérie des villes. Des abattoirs censés fournir des viandes de meilleure qualité, obtenues de manière quasi industrielle, tout en faisant oublier la réalité violente de la mise à mort de l'animal. Un autre phénomène apparu à la fin du XVIIIe se développe tout le long du XIXe siècle, dans toute l'Europe et bientôt aussi en Amérique du Nord, la passion pour les zoos. Pendant qu'on envoie les animaux en usine, dans les mines ou dans les abattoirs, le public est de plus en plus nombreux à vouloir découvrir des animaux sauvages, inconnus et exotiques. Le jardin zoologique du Jardin des Plantes, le premier créé en 1793, va servir de modèle à tous les zoos du 19e siècle. Des zoos toujours plus grands, proposant au public des bêtes toujours plus spectaculaires, toujours plus féroces.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
L'excès en tout est un défaut. Mais adressons pourtant un salut à la Société protectrice des animaux qui vient de célébrer discrètement son centenaire. Grâce à cette œuvre, fondée en 1845 par le général de Gramont, les animaux malades ou abandonnés, et même si l'on peut dire les animaux pauvres, sont recueillis et soignés dans ces centres d'accueil. Réjouissons-nous à l'idée que les pensionnaires de ces asiles, eux au moins, pourront penser que l'homme est moins méchant qu'il n'en a l'air.
Paradoxalement, le 19e siècle voit aussi s'exprimer le début d'une sensibilité à la cause animale. Les Britanniques en sont les pionniers, suivant l'exemple du philosophe anglais Jeremy Bentham, qui déclarait dès 1789 « La question n'est pas les animaux peuvent-ils penser, ni peuvent-ils parler, mais bien peuvent-ils souffrir ?» Et Bentham ajoutait, prophétique, « Le jour viendra où le reste de la création animale acquérera ses droits qui n'auraient jamais dû leur être refusés si ce n'est de la main de la tyrannie. » Les Britanniques adoptent en 1822 les premières lois contre les violences faites aux animaux et créent les premières sociétés de protection animale qui, avec une évidente condescendance, se donnent pour but d'éduquer les classes populaires montrées du doigt comme particulièrement violentes à l'égard des animaux. En France, il faut attendre 1845 pour que soit créée la Société protectrice des animaux, la SPA. L'idée de sa création avait germé 2 ans plus tôt dans l'esprit d'un médecin, Pierre Dumont de Monteux. Un jour de 1843, il assistait dans une rue de Paris à une scène qui l'a révolté. Un charretier fouettant, battant, jetant à terre un malheureux cheval qui refusait d'avancer. C'est grâce à son intervention que le préfet de police a fait interdire aux cochers de frapper les chevaux avec le manche de leur fouet. « Où est la justice ?» demandait Dumont de Monteux. « Où est la pitié ? Où sont enfin tous les sentiments moraux qui doivent caractériser l'homme social ?» Éric Baratet, on a l'impression qu'au 19e et au début du 20e siècle, on assiste à une distanciation de plus en plus grande entre l'animal et l'humain, comme si la gestion de l'animal avait pris une dimension quasi industrielle.
Oui, il y a cette tentation au XIXe siècle de l'industrialisation. On l'a vu pour les mines, on l'a vu pour les tramways. C'est la même chose pour l'élevage. On parle beaucoup d'ailleurs, les zootechniciens, hein, c'est-à-dire les spécialistes de l'élevage, parlent sans arrêt de l'animal machine, de l'animal moteur, hein, celui qui doit travailler ou celui qui doit fournir des produits, du lait, de la viande, etc. Donc il y a effectivement cette tentation-là, mais en même temps, parallèlement, il y a ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire une montée de l'intérêt pour les animaux.
Est-ce qu'on peut dire, en faisant l'avocat du diable, que l'utilisation des animaux a permis de soulager tout de même le travail humain ?
Oui, non. Par exemple, les premiers chevaux de mine sont introduits dans les années 1830-1840 pour remplacer les pousseurs. C'était des humains qui poussaient les wagons. Et les pousseurs, à l'époque, étaient très mécontents, hein, parce qu'ils allaient perdre leur emploi. Et il y a eu pas mal de violence envers les chevaux concurrents.
Oui, les animaux, hein, donc, en fait, ce sont des travailleurs non payés. Donc ça,
alors les animaux, voilà, c'est un avantage, ils ne font pas grève, quoique, on l'a vu pour les mines, un animal peut s'arrêter de travailler, hein, mais même dans la guerre, un animal peut décider de ne plus travailler parce qu'il est totalement épuisé, et à ce moment-là, vous ne pouvez plus rien faire. Hein. Donc ces animaux-là, ils sont quand même à la fois considérés comme des machines et en même temps, les gens de l'époque savent bien qu'ils ont affaire à des vivants. Donc il y a cette espèce d'ambiguïté où on aimerait bien en faire des machines, mais ce ne sont pas des machines.
Et comment expliquer, Éric Baratet, cette espèce encore d'un paradoxe ? Il me semble, on est au 19e, on développe les abattoirs, on massacre des animaux, hein, on sait, au 19e, le massacre des bisons, les dodos de l'océan Indien, les pingouins, et j'en passe. Et en même temps, bizarrement, on construit des zoos.
Ah, c'est la même tendance, hein. C'est la volonté de maîtriser la nature. L'homme doit maîtriser la nature. La nature et le monde animal sont au service des humains. Que l'on massacre pour le plaisir ou que l'on massacre aussi les bisons, par exemple, sur place, ou qu'on massacre en Afrique ou dans d'autres continents pour ensuite faire venir des animaux dans les zoos. On sait maintenant qu'il y avait une énorme mortalité. Hein. On a pu calculer que pour un gorille arrivé dans l'entre-deux-guerres en Europe, il y avait 30 morts auparavant, hein. Donc vous voyez l'énorme mortalité.
Oui, c'était un gros business aussi, le commerce
énorme,
des animaux sauvages.
Bien sûr,
oui.
C'est un énorme pan de l'économie, mais faire cela et en même temps mettre les animaux au travail, etc., c'est la même tendance, hein. C'est l'idée vraiment qu'il faut exploiter la nature. Et le XXe siècle va en rajouter encore plus, hein, avec l'invention de l'élevage industriel, par exemple.
Oui, bien sûr. Est-ce que au XIXe siècle, la pensée darwinienne, qui s'appuie quand même sur des similitudes entre humains et animaux, est-ce qu'elle a pu jouer un rôle vers un intérêt pour la cause animale ou pas du tout ?
Oui, tout à fait. Oui. On voit bien comment une partie, pas tous, mais une partie des darwiniens sont assez sensibles à la cause animale, effectivement. Hein, on retrouve ça assez fréquemment. Il y a aussi l'idée, fin XIXe, que il y a un parallèle, on trouve ça chez Zola, chez Victor Hugo, un parallèle entre la défense des animaux, la défense des ouvriers, de l'enfance maltraitée, des femmes, par exemple. Hein, Marguerite Durand, qui est l'une des premières grandes féministes qui crée le journal,
oui.
Voilà, qui crée le journal La Fronde, est aussi celle qui va créer le premier cimetière pour chiens à Asnières, à côté de Paris. Hein, donc il y a vraiment, à l'époque, ce sentiment-là, et puis qui va disparaître après, dans l'entre-deux-guerres. Cette alliance un peu, on pourrait dire, des supprimés disparaît, en grande partie, parce qu'alors là, c'est encore plus qu'au XIXe siècle, c'est l'idée de la maîtrise de la nature, et là, il y a une très forte influence du communisme. Parce que dans les pays communistes, l'homme se réalise par le travail, par la transformation de la nature. Et cette idée d'alliance des opprimés disparaît en grande partie. Il faut attendre les années 2000 pour que ça revienne sous d'autres formes.
Merci beaucoup Éric Baratet. Votre dernier livre passionnant, publié en 2025, s'appelle « Une histoire animale du monde, à la recherche du vécu des animaux de l'Antiquité à nos jours » chez Talendier. À lire également « Animaux et humains, une histoire partagée » de la préhistoire au XXIe siècle de Clémentine Giraud, Violette Pouillard, Pierre Cernat et Margot Spruit chez Textuel. À lire aussi de Marilène Patou-Matis « Nous étions si proches, les relations humains-animales de la préhistoire à nos jours » aux éditions Alary. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission a été réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin et Frédéric Martin, à la technique Élise Christophe et Chantal Nouvelot. Et merci au studio Radio France à Lyon. Vous pouvez vous abonner au podcast du Fil de l'Histoire sur l'appli Radio France. J'attends comme toujours vos commentaires sur la page de l'émission ainsi que sur Facebook.